voudrais, là où nous avons démontré à Nice, avec notre logiciel sur les caméras de vidéosurveillance, que nous pouvions faire de la reconnaissance faciale pour l'heure que le gouvernement, une réforme qui le permettrait en matière de liberté individuelle, de rentrer dans ces logiciels les fiches S, qui signalent tous ceux qui sont radicalisés ou tous ceux
On rappelle que les fiches S sont soupçonnées, ils ne sont pas convaincus d'avoir commis un crime. Ils
Et
sont
nous
soupçonnés
ne demandons
de
pas
pouvoir
d'en avoir connaissance. Nous voulons que ça se fasse sous le contrôle de l'État. Mais les mettre simplement comme ça se fait en Israël dans notre logiciel permettrait d'identifier le déplacement de n'importe quelle personne radicalisée ou soupçonnée d'être radicalisée sur le territoire de nos collectivités. Eh bien, ce serait un moyen efficace avec les nouvelles technologies, avec le numérique, de pouvoir aussi nous accompagner, accompagner l'État, l'addition de la force de la collectivité et de l'État dans la lutte contre le terrorisme.
Dans l'actualité des idées aujourd'hui, la vidéosurveillance, quelle réalité et au-delà du clivage sécurité-liberté, alors que Amos Gitai, le cinéaste israélien, nous parlait tout à l'heure de sa caméra comme d'un fétiche, elle, notre deuxième invitée, met en garde contre les dérives de la vidéosurveillance et la tentation actuelle de fétichiser justement cette technologie, couteau suisse de la sécurité, reine des preuves. Invitée Élodie Lemaire, maître de conférence à l'université de Picardie, Jules Verne, spécialiste des questions de sécurité et de justice, auteur de L'œil sécuritaire, mythes et réalités de la vidéosurveillance à la découverte. Dans cet essai enquête, la sociologue passe au scanner nos idées reçues en la matière, fantasmes aggravés par la littérature et le cinéma d'Orwell à Minority Report, pour montrer à partir d'expériences concrètes les dangers bien réels de cette extension du domaine de la vidéosurveillance, comme l'appelait de ses voeux le maire de Nice, Christian Estrosi, qu'on entendait dans un entretien donné à RMC en septembre 2017. Bonjour à vous, Élodie Lemaire.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, l'œil des caméras de surveillance a remplacé, avec les années, la peur du gendarme. Voilà ce que vous nous racontez. Mais d'abord, pour comprendre, quel boom quantitatif cette technologie a-t-elle connu depuis une dizaine d'années ?
Oh ben là, les chiffres sont rappelés dans l'introduction de l'ouvrage. Je ne les ai pas exactement en tête. En tout cas, il y a eu un développement important qui n'est pas similaire quand même en Angleterre, par exemple, comme en Angleterre, qui est un pays pionnier dans le domaine, mais qui est tout de même un chiffre qui mérite qu'on s'y attarde. Si vous voulez, ces développements quantitatifs, il est intéressant parce que pour l'instant, en tout cas, ça repose essentiellement sur des estimations. L'idée, c'est de voir aussi comment ça se développe au quotidien, au concret, comment c'est utilisé, au-delà justement de cette vision un peu perceptionniste du changement.
Et pour comprendre, vous avez travaillé, vous, à partir d'un terrain d'étude, la commune de Braville, où vous avez enquêté. On peut dire que c'est une ville pionnière en matière de vidéosurveillance, mais aussi laboratoire aujourd'hui.
Oui, tout à fait, dans la mesure où la commune de Braville a été équipée relativement tôt hein, de caméras de vidéosurveillance dans les années 90 et elle est également exemplaire de l'usage de la vidéosurveillance à travers les objectifs qui lui ont été assignés en fait au fil du temps, de la prévention, la dissuasion à aujourd'hui des objectifs beaucoup plus répressifs.
Et vous montrez comment on est passé de la gestion urbaine à la lutte contre la délinquance aussi à travers cet outil qu'est la vidéosurveillance, comment le déploiement de ces équipements s'est fait dans des territoires qui se sont élargis au fur et à mesure. Il y a plus de caméras aujourd'hui partout en France et elles sont aussi implantées dans des lieux nouveaux, dans les rues, mais aussi dans les transports en commun, les bus, les métros, dans les écoles, ou encore, et ça c'est une nouveauté, dans les églises. Illustration de cette tendance dans le 15e arrondissement à Paris, une vidéo sur la vidéo du journal Le Parisien.
Je suis dans cette paroisse depuis 3 ans, j'ai trouvé un système de vidéosurveillance déjà installé, je suppose depuis une dizaine d'années, et j'ai demandé à l'amplifier, donc à l'étendre. Pour quelle raison ? Ben, par précaution. On est dans un contexte, je suis là depuis 2015, hein, où tout un chacun sait à quel point la phobie des attentats, les menaces, les profanations ont pu avoir lieu. Donc on a décidé d'amplifier le système. Alors il y a une deuxième raison, à part le moment sécuritaire un petit peu délicat que toute la société vit, notamment à Paris, il y a la présence d'une activité avec des enfants. Il y a un patronage, c'est-à-dire en fait il y a un centre aéré, il y a de l'aide aux devoirs, donc il y a une fréquentation de jeunes nombreuses. Et là, dans le contexte aussi des agressions pédophiles, il fallait pouvoir prévenir et donner le sentiment que l'espace est bien sécurisé. Les images qu'on enregistre n'ont jamais servi depuis que je suis là, depuis 3 ans. De fait, on a la chance de ne pas avoir eu de problème. Mais c'est un principe de précaution.
Voilà, principe de précaution, prévenir, effet presque dissuasif, tel que l'évoque ce prêtre pour sa paroisse, son église, Saint-Jean-Baptiste de la Salle, qui s'est donc équipé de caméras de vidéosurveillance. Là, on est dans une tendance qui se retrouve ailleurs, à vos yeux, Élodie Lemaire, d'installer des caméras pour prévenir, par précaution.
Oui, c'est une tendance qui s'observe à peu près dans tous les domaines, et ce qui est incroyable, c'est le coup de force de la vidéosurveillance, c'est de réussir en fait à s'imposer comme un nouvel outil de lutte contre la délinquance, mais pas que. On voit bien ici avec cet exemple que en dépit des résultats très contrastés en fait de la vidéosurveillance, eh bien cet outil s'impose à peu près partout.
Certains plaident aujourd'hui pour un élargissement de ces usages. On entendait tout à l'heure en ouverture Christian Estrosi, le maire de Nice, qui plaidait il y a 2 ans déjà pour la reconnaissance faciale des fichiers S par des caméras de surveillance. Ça fait partie des nouveaux usages possibles?
Oui, et on est dans la continuité en fait de l'invention de des nouveaux usages de la vidéosurveillance, hein, puisque aujourd'hui on veut l'étendre donc à ce qu'on appelle des caméras dites analytiques, dites intelligente. Alors c'est intéressant justement de voir dès aujourd'hui, lorsque j'ai mené l'enquête 2014-2015, il y avait très peu de vidéosurveillance dite analytique en France. En tout cas, moi je n'en ai pas vu sur le terrain, mais déjà de voir à l'aune de ce fonctionnement réel les difficultés en fait que posaient les caméras de vidéosurveillance et qui seront certainement présentes dans la mise en place de la vidéosurveillance dite intelligente.
Parce qu'on évoquait ce saut quantitatif de plus en plus de caméras de vidéosurveillance dans des lieux de plus en plus nouveaux, mais il y a aussi un saut qualitatif qui semblerait en passe d'être fait. Le principal progrès dans le passé, vous le rappelez, résidait jusqu'ici dans le passage de l'analogique au numérique. Aujourd'hui, est-ce qu'avec le progrès en matière d'intelligence artificielle, ça laisse entrevoir de nouvelles possibilités, un potentiel qui serait encore inexploité?
Ça laisse entrevoir de nouvelles possibilités, de nouveaux usages, mais l'enquête mériterait d'être menée sur le sujet, puisque on voit déjà à travers certaines études qui ont été menées en Angleterre, je pense par exemple à un article du Monde qui datait de 2017, si je ne m'abuse, qui montrait les effets assez désastreux de la vidéosurveillance dite intelligente, puisqu'elle avait permis l'arrestation d'un certain nombre de personnes, mais il s'avère que ces personnes étaient toutes innocentes.
Donc elle n'est pas si intelligente que ça, peut-être?
Non. A priori, non.
Vous semblez estimer quand même qu'il y a encore aussi beaucoup de fantasmes autour aussi de cette toute-puissance technologique qui a peut-être aujourd'hui plus de limites qu'il n'y paraît dans l'usage encore des vidéosurveillances, qui plaideraient pour un usage aussi raisonné de cette technologie?
Tout à fait, des limites qui sont d'ordre divers, limites d'un point de vue de la qualité, et ça c'est ce que l'ouvrage donne aussi à voir, limites aussi d'un point de vue de la sécurité de ces dispositifs, puisqu'on finalement on se rend compte à travers la parole des ingénieurs que ce dispositif est assez vulnérable, et je cite un ingénieur qui me disait finalement il faudrait des caméras pour surveiller les caméras, puisque des risques de piratage sont également possibles.
Mais reste que ce monde, ce secteur pardon, de la caméra de vidéosurveillance est aussi un énorme marché, un business, et c'est vrai que c'est pas comme ça, avec ce ton raisonné que vous l'évoquez, qu'on nous la présente. Je vous propose d'écouter une publicité, celle de l'entreprise Thales, spécialisée dans l'aérospatiale, la défense, la sécurité, qui nous parle de son projet d'une vidéo protection intelligente.
Les organismes publics et privés ont de plus en plus recours à la vidéoprotection. Mais plus on augmente le nombre de caméras, plus il est difficile d'identifier un événement isolé. C'est pourquoi Thales, acteur majeur de la sécurité, propose des solutions de vidéoprotection intelligentes. C'est-à-dire des solutions capables d'analyser en temps réel les images provenant des caméras pour y détecter les événements suspects en tirant le meilleur parti des systèmes existants. Grâce à l'intelligence artificielle, le système est même capable d'apprendre par lui-même et d'identifier des situations anormales afin de limiter les menaces. Le système peut également analyser le comportement des individus et détecter toute forme de délit. Intrusion dans une zone non autorisée, agression, bagarre, il en est de même pour les véhicules. Le système peut détecter automatiquement un délit et prévenir en temps réel les forces de l'ordre, qui peuvent alors intervenir immédiatement en situation de flagrant délit. La vidéoprotection intelligente aide les opérateurs dans leur mission en passant de la big data à la smart data.
Donc ça, c'est un argument publicitaire, un argument de vente ou qui s'appuie quand même aussi sur la réalité d'avancées technologiques aujourd'hui, ce passage de la big data à la smart data, la vidéoprotection intelligente. On y arrive, c'est pour demain.
En tout cas, ça charrie quand même un certain nombre de présupposés. Là, on entend bien dans cette annonce publicitaire que cela suppose de reposer sur une grande coopération. Donc, la capacité de cette vidéo, de ces caméras à détecter des situations anormales et ensuite de prévenir en temps réel les services de police qui, selon l'annonce, interviendraient directement. Alors là, on voit à travers l'enquête que j'ai menée que ça ne se passe pas vraiment comme ça, puisque les situations anormales qui sont détectées sont souvent des erreurs d'appréciation. Je vous donne un exemple, les vidéo-opérateurs qui sont en poste derrière les caméras peuvent se mettre à zoomer sur quelqu'un qui va se mettre à courir soudainement ou à faire du surplace. Donc on a toute une vision comme ça particulière, une vision normative, on pourrait dire, en fait, de l'espace public. Il faut se comporter d'une certaine façon, mais qui ne, pour autant, ne suppose pas que derrière il va y avoir une infraction. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui court soudainement parce qu'il va chercher son bus. Et ensuite, donc cette idée que, cela permettrait de faire intervenir plus rapidement les services de police. Il faut encore que les services de police, décident dans leur ordre de priorité que ce déplacement est intéressant et pertinent ou non. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant de voir que finalement on s'appuie sur cette idée de la coopération et que pour l'instant, dans mon travail, j'ai plutôt mis au jour des formes de relations conflictuelles en fait entre les acteurs qui manipulent, mobilisent, apprécient, je pense là aux magistrats, la vidéosurveillance.
Oui, alors parce que cet œil sécuritaire, pour reprendre le titre de votre essai enquête, Élodie Lemaire, ne peut pas pour l'instant se passer de la main de l'homme ni de l'œil humain. Vous avez, vous, été dans un de ces postes d'observation de l'autre côté de l'écran et vous avez eu à regarder à travers l'œil sécuritaire de la caméra de vidéosurveillance, vers quoi votre œil était-il attiré? Qu'est-ce que vous avez-vous perçu en épluchant, déruchant toutes ces images?
Alors, l'œil est attiré, et c'est là que c'est intéressant, parce qu'il me semble qu'en fait, derrière leur sécurité, c'est évidemment notre vision sécuritaire du monde social, ce sont des schémas de perception, en fait, de la population qui se diffuse au-delà des seules forces de police. Et comme tout le monde, j'ai été attiré, donc, par des endroits qui sont dits chauds, où il est censé se passer quelque chose, donc c'est plutôt là que j'ai regardé avec les autres vidéo-opérateurs.
Vous étiez où, dans un commissariat ou dans...
Non, dans un centre de sécurité urbaine. Et puis, là où il se passe quelque chose, donc par exemple, qu'est-ce que ça veut dire, il se passe quelque chose, on va regarder, au lieu de regarder des rues désertes, on va regarder là où il y a des attroupements, on va regarder parce qu'on on voit par exemple passer des services de police ou des pompiers, on va suivre, vous voyez, à partir du moment où il y a quelque chose qui se passe, mais qui ne, pour autant, qui ne signifie pas qu'une infraction est en train de se produire. Ce sont des catégories de perception qui se diffusent et que je partageais en fait avec mes enquêtés. En revanche, lorsqu'il s'est agi de regarder des extraits des bandes de vidéosurveillance, j'ai eu beaucoup de mal en fait à les interpréter. Je ne voyais pas grand-chose. Il me semble, si vous voulez, que la façon, ce que l'on voit en fait sur ces extraits dépend aussi de nos catégories de perception. Et ces catégories, elles diffèrent selon les acteurs en présence.
Là, pour vous, la question de la perception est essentielle. Vous l'écrivez, la valeur de la vidéo comme témoignage tient moins à ce qu'elle donne à voir qu'à la manière qu'ont les professionnels d'y voir quelque chose, de ce qu'ils pensent devoir y voir, en fait.
Tout à fait, tout à fait. C'est la raison pour laquelle il me semblait important de restituer tout ce travail accompli par ce que j'ai appelé les petites mains de la vidéosurveillance. Donc, tous ces acteurs, en fait, qui, tout au long d'une chaîne, sélectionnent ou pas les caméras, préviennent ou pas les services de police qui vont mobiliser ou pas ces caméras dans le cadre de leur enquête. Et en fait, tous ces acteurs, occupent une position différente, mais surtout, ils ont une définition de la preuve qui est hétérogène.
J'en reviens juste à cet extrait de cette vidéo publicitaire de l'entreprise Thales qu'on entendait tout à l'heure. Est-ce que la sécurité a une réelle valeur marchande aujourd'hui? Comment se répartit un peu ce marché? Quelles promesses offre-t-il?
La sécurité, évidemment, une valeur marchande, et c'est ce qui fait que aujourd'hui la vidéosurveillance soit aussi développée, parce qu'il y a des intérêts économiques derrière très forts, comme vous l'avez rappelé, il y a un marché de la sécurité. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer ce que Jacques de Maillard et Fabien Jobard appellent la multilatéralisation des forces de police. Donc c'est moins une forme de privatisation en fait que une logique d'hybridation entre le privé et le public, et on voit qu'il y a des rapports qui sont assez inégaux.
Ce marché est quand même pour l'instant assez fragmenté dans sa composition. Vous rappelez aussi que les technologies ne sont pas neutres, Élodie Lemaire, que leurs qualités sont autant politiques que techniques, mais que le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans notre façon de les appréhender, souvent encore la question technique, la technologie, rétrécit un peu l'esprit critique. On est obsédé par le fait de comprendre comment ça se joue et à quoi ça sert exactement, mais on en oublie de reprendre un peu du champ et faire travailler notre esprit critique sur ce que peut vraiment la vidéo aujourd'hui, ce qu'elle filme et surtout comment elle le filme aussi.
Tout à fait, c'est ce qui me semblait important de rappeler, il me semble d'ailleurs dans le chapitre 3, de rappeler cette forme aussi de dépolitisation en fait des enjeux à travers ce registre, cette rhétorique technique. Et donc d'investir en fait le terrain des prestataires de sécurité privée me permettait de rappeler ces enjeux.
On va en revenir à la réalité, mais on va faire un passage d'abord par les mythes, parce que vous rappelez aussi que ce qui ne pollue pas le débat, mais disons qu'il le simplifie un peu trop à outrance, c'est sa polarisation, la polarisation du clivage autour de ces vidéos surveillance. D'un côté, il y a ses partisans, au nom de la sécurité, de la protection des citoyens, en dissuadant le passage à l'acte délinquant, en repérant les infractions commises, en identifiant leurs auteurs. Les vidéos surveillance peuvent nous permettre de vivre dans un monde plus sécurisé. De l'autre, il y a les détracteurs de la vidéosurveillance ou vidéoprotection au nom de la liberté. Ces vidéos s'apparenteraient pour beaucoup à un nouveau mode de contrôle et de gestion de la population. En quoi, pour vous, ce clivage est trop réducteur?
Mais parce que finalement, il repose sur un certain nombre de présupposés, sur la toute-puissance de la vidéosurveillance, qui est assez mise à l'épreuve un peu dans l'ouvrage, et surtout parce que il me semble que ça opacifie en fait le débat. Donc l'intérêt, c'est d'aller voir aussi comment au quotidien sont mobilisées ces vidéosurveillances. Et d'une certaine manière, l'idée de cet ouvrage, c'est de faire un pas de côté pour essayer de reposer différemment les enjeux du débat.
Mais si on repart et on retraverse la littérature, le cinéma, depuis quelques années, quelle image ça nous a donné de cette vidéosurveillance, de cet état caractéristique que serait la vidéosurveillance d'une société du tout contrôle?
Alors justement, c'est le problème, il me semble, c'est que les modèles qui ont été posés pour analyser la vidéosurveillance, donc qui relèvent soit du panoptique de Michel Foucault, soit également de Big Brother, me semblent un petit peu tombés lorsque on mène l'enquête, puisque finalement, on se rend compte que la surveillance n'est pas totale. et que la vidéosurveillance est derrière celles et ceux qui sont postés pour surveiller, eh bien vont orienter leur regard vers des catégories de population particulières. Donc finalement, cela relève plutôt d'une surveillance hautement sélective qu'une vision totale de la population.
Et pourtant, on a l'impression que c'est pour ce qui est en train de se jouer en Chine, notamment cet effet dissuasif ou disciplinaire de la vidéosurveillance. Est-ce qu'on n'est pas si loin ? Écoutez.
Ce n'est pas de la science-fiction en Chine, c'est une réalité. Dans les lieux publics, tout le monde est scruté. Un visage peut immédiatement être associé à une identité. Les Chinois appellent ce système l'œil céleste. Pendant que les agents de la circulation ont le dos tourné, les caméras, elles, dotées du système de reconnaissance faciale, font leur travail.
Quand les gens traversent au feu rouge, on le voit tout de suite sur l'écran. Du coup, c'est la honte pour eux. Ils ne peuvent que reconnaître leur tort.
Des caméras intelligentes à tous les coins de rue. Et pour ceux qui traversent au feu rouge, l'amende est de 3 euros. La Chine ne connaît pas de loi sur la vie privée. Être filmé ne semble déranger personne.
Une atteinte à la vie privée ? C'est le prix à payer pour notre sécurité.
Ça nous oblige à respecter les règles, c'est plutôt bien.
La Chine est surpeuplée. La reconnaissance faciale, ça facilite la gestion de la ville. La police est alertée tout de suite.
La reconnaissance faciale s'est invitée dans le quotidien des Chinois, là où on ne l'attend pas forcément. Dans ces toilettes publiques, par exemple, pour limiter la consommation de papier. Ou dans les supermarchés comme celui-ci à Pékin. Plus de caisses, encore moins de caissières, mais des codes-barres et une vision artificielle qui scanne les produits, les visages et débite les comptes en banque en 2 secondes à peine.
Là, on retrouve un peu la visée disciplinaire inspirée hein, du panoptique de Foucault. Alors, si sa pertinence a été remise en cause, comme vous nous dites, en France, dans ce « tout le monde est visé par l'œil céleste en Chine », est-ce qu'on a des raisons de craindre que c'est ce qui pourrait nous arriver ici demain ?
On a des raisons de le craindre. Bon, il y a quand même un fossé quand même entre le modèle chinois et la France. Il me semble également que la CNIL appelait de ses voeux assez récemment pour une nouvelle réglementation justement hein, de la vidéosurveillance dite intelligente. Donc on ne s'achemine tout même pas vers ce modèle.
Il y a des garde-fous.
Voilà, il y a des garde-fous. En tout cas, ça donne à réfléchir et ça donne à réfléchir sur ces forme de gouvernement qui, au nom de la prévention, font de la répression. Il me semble que la vidéosurveillance a de beaux jours devant elle parce qu'elle s'inscrit justement dans ces formes de gouvernement, c'est-à-dire hein, essentiellement moins l'intérêt porté sur la dangerosité avérée que sur la gestion des risques.
Et sur le fait que la technologie devient un danger ou une valeur en fonction des usages qu'on peut en faire aussi. Et que la technologie peut être politique
tout à fait.
Hein, dans certaines dimensions. Vous disiez que en France, aujourd'hui, pour l'instant, la vidéosurveillance serait plus un moyen privilégié de tri social dans les pas de David Lyon. Comment la vidéosurveillance contribue aujourd'hui pour vous à catégoriser les populations cibles? Qu'est-ce que vous avez pu observer dans votre terrain de recherche, donc dans la commune de Braville?
Alors, déjà, la vidéosurveillance, c'est un dispositif qui saisit une certaine forme de délinquance, puisque elle saisit ce qui est les lieux ouverts au public, donc ce qui se passe dans les espaces publics. Donc il y a toute une partie de la délinquance qui échappe aussi aux yeux des vidéo-opérateurs. C'est déjà une façon particulière en fait d'appréhender la question de la délinquance. Et puis ensuite, comme je vous le disais, tout va dépendre également de la façon dont les vidéo-opérateurs, et ça je l'ai montré dans l'ouvrage, investissent aussi leur travail. Donc, selon les vidéo-opérateurs, certains vont avoir tendance à essayer de faire un travail policier, alors que d'autres sont assez désinvestis, puisque c'est un travail qui est très peu reconnu, comme je le rappelle. Donc, il y a des manières, en fait, différenciées d'accomplir ce travail de vidéo-opérateur et donc de surveiller la population.
Avec nous jusqu'à 13h30, la sociologue Élodie Lemaire, à l'occasion de la parution de son essai enquête « L'œil sécuritaire, mythes et réalités de la vidéosurveillance », c'est aux éditions La Découverte.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Dans cette enquête, Élodie Lemaire, vous avez examiné les enjeux d'une vidéosurveillance associée par beaucoup à un couteau suisse de la sécurité, puis au fil des années à la nouvelle reine des preuves, avec cette tentation que l'on peut avoir de fétichiser une technologie. Or, vous vous dites, la bonne question à se poser n'est pas à quoi sert la vidéosurveillance, mais à qui sert la vidéosurveillance ? Alors, comment ou à qui, c'est compliqué de le formuler du coup, la vidéosurveillance sert dans le domaine judiciaire, parce qu'elle est de plus en plus utilisée comme une preuve en soi ou comme une preuve parmi d'autres. Comment ces images, celles de la vidéosurveillance, ont été intégrées au mode d'enquête aujourd'hui ?
Alors, elles ont été intégrées progressivement au mode d'enquête et évidemment en fonction des acteurs en présence, on va la présenter comme un nouveau mode de preuve, de manière aussi à légitimer ce dispositif, puisque je rappelle dans le premier chapitre de l'ouvrage que contrairement à cette idée reçue de la banalisation de la vidéosurveillance, elle connaît des résistances et il existe tout un travail social de persuasion pour convaincre de l'intérêt quasi quotidien de ce dispositif.
C'est ce qui s'est passé par exemple pour les policiers qu'on a voulu équiper et qui le sont en partie maintenant de micro-caméras. Vous racontez comment les syndicats de police ont aussi conditionné la mise en place de ces caméras piétons à la possibilité pour l'officier de police de les enclencher et de ne pas les enclencher lui-même en fait. Hein.
Tout à fait.
Parce qu'il y avait la peur du flicage du flic. Oui,
tout
c'est
à
ça.
Fait, tout à fait. Donc on voit bien que sur le terrain, il y a des acteurs relais qui permettent de justifier de l'intérêt de ce dispositif, ou en tout cas de rappeler régulièrement l'intérêt de ce dispositif. Alors, dans le cas de la vidéo comme mode de preuve, il me semblait intéressant de revenir dessus, ou en tout cas de démonter un petit peu cette idée reçue, puisque finalement, on brandit souvent, notamment dans les médias, l'outil de la vidéo comme un moyen de résoudre les affaires judiciaires. Certaines sont même médiatisées, on y a même d'une certaine façon accès sur Internet et dans les journaux. Et finalement, je voulais un petit peu éclaircir ce point. Et finalement, on se rend compte que la vidéosurveillance n'est pas une preuve en soi. Donc ça, c'est le premier résultat important. Elle est construite comme un mode de preuve tout au long d'une chaîne qui réunit des acteurs différents, qui va des vidéo-opérateurs au palais de justice, tout en passant par les policiers. Elle est construite ou non comme un mode de preuve. Et ça me semble intéressant de le rappeler parce que on se dit finalement avec une vidéo, il suffit de voir pour juger. Et on se rend compte que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Au contraire, les magistrats vont avoir tendance à se distancier en fait de cet outil en le réinscrivant dans un faisceau de preuves convergentes.
Exemple, si on prend un exemple, l'affaire Théo. Est-ce qu'il y a eu des images de son interpellation ?
Il y a eu des images, oui, il y a eu des images. Et justement, on pensait que avec les images, cela pouvait éclaircir et nous donner la réalité des faits. Et il me semble que les investigations sont toujours en cours malgré ces images. Donc on voit bien qu'il ne suffit pas de voir pour juger, d'avoir une bande de vidéosurveillance pour être en mesure d'apprécier la réalité des faits.
Mais du coup, ces images n'ont pas été retenues comme une preuve ou une antipreuve.
Alors, je ne suis pas rentrée dans le détail, mais en tout cas, on voit bien que ce n'est pas l'argument ultime.
Je vous propose d'écouter les mots d'Alain Damasio. Alors lui, justement, c'est un auteur de fiction, l'auteur des Furtifs qui vient de paraître aux éditions La Volte. Il parle de cette société du contrôle dans lequel on est en train d'évoluer.
Mais moi, le contrôle, je trouve que c'est un thème extraordinairement intéressant parce que c'est aussi une pulsion positive, c'est-à-dire que c'est une pulsion qui permet de reprendre pied et de reprendre place et de reprendre un peu de pouvoir dans un environnement qui est souvent très incertain. Mais c'est aussi une pulsion négative en sens où elle vient répondre à un besoin de rassurance, elle vient de répondre à des peurs, quoi. ce contrôle, il a été vertical, c'est-à-dire qu'il a été contrôlé, on va dire, allez, des médias, si vous voulez, de l'armée, de la police, du gouvernement sur les citoyens. Mais ce contrôle, il devient, pour moi, secondaire. C'est plus le contrôle croisé qui, aujourd'hui, est extrêmement important. C'est-à-dire que le père contrôle sa fille en regardant son portable, la fille regarde ce que son père a été voir sur Internet, le futur embauché googlise son patron, le futur patron demande à des hackers d'aller voir le compte Facebook du futur embauché pour voir ce qu'il va faire, etc. quoi. Donc on a un contrôle croisé extrêmement puissant, un espionnage presque croisé extrêmement puissant. Et puis il y a le contrôle intime aussi, qui est très fort, ce que j'appelle moi l'intra-contrôle, l'autocontrôle ou ce côté self-serre hein, qu'on a, c'est-à-dire qu'on est capable d'autocontrôler nos vies, de courir avec nos pulsations cardiaques, notre tension enregistrée par le smartphone. On veut des systèmes connectés d'e-santé comme ça qui nous disent à chaque moment où on en est, est-ce qu'on est en forme ou pas. C'est-à-dire qu'on a une peur qui se généralise et on demande à la technologie de nous rassurer.
Est-ce qu'on n'a pas aussi avec la vidéosurveillance la société qu'on est en train d'appeler de nos voeux par nos pratiques et nos usages aussi?
Oui, parce que ça s'inscrit finalement dans un paradigme beaucoup plus large. Finalement, c'est pas du tout étonnant dans un État néolibéral de chercher absolument à avoir le contrôle. Ça recoupe aussi les enjeux de performance, finalement, la vidéosurveillance se coule en fait dans, je pense par exemple à la managérialisation des services publics, je le rappelle un moment donné dans l'ouvrage. Donc, la vidéosurveillance, c'est un élément parmi des schèmes de pensée, vous voyez, beaucoup plus large, qui la dépasse et qui font que elle est légitimée et que on la remet très peu en question finalement, en dépit du manque de preuves de son efficacité.
Oui, donc dans cette banalisation de ce que vous appelez une idéologie hein, qui construit une vision sécuritaire du monde social, on est tous un peu les relais aujourd'hui, au jour le jour, de cette idéologie-là.
Tout à fait, et on voit bien que finalement elle se développe parce qu'elle repose essentiellement sur de la croyance. Hein, la vidéosurveillance, son efficacité, c'est avant tout l'objet d'une croyance.
Et on l'a vu peut-être aussi à travers les différentes mobilisations, manifestations des Gilets jaunes. Élodie Lemaire, une dernière question à ce sujet. Vous avez beaucoup, vous, travaillé avant cet ouvrage, L'œil sécuritaire sur la police, sur sollicité et sur active hein, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. On l'a vu là aussi, la guerre des images hein, qui peut être menée chaque samedi sur les manifestations qui ont lieu notamment à Paris, mais dans le reste de la France aussi. Cette croyance commune dans la force probante des images avec des effets très pratiques. Aujourd'hui, tout est filmé, on filme tout et les images s'opposent. Quelle valeur leur accorder ?
Eh bien, en tout cas, on voit bien qu'elles ne garantissent pas la réalité des faits, même si filmer semble devenu un réflexe pour prouver, voire même pour se protéger, parce qu'il me semble que dans les manifestations, les manifestants utilisent la vidéosurveillance pour garantir leur parole, pour se protéger. Donc on en revient finalement à cette idée qu'il ne suffit pas de voir pour juger et que la vidéosurveillance ne permet pas de nous transformer en policiers ou en juges infaillibles. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que finalement, le savoir visuel, vous voyez, moi je m'attendais à ce qu'il soit devenu un enjeu au sein des magistrat hein, qui verra le mieux, qui sera en mesure d'interpréter le mieux. Et on voit bien que la question de l'interprétation, c'est encore le monopole des magistrats contre une administration profane de la preuve à travers la vidéosurveillance.
Merci beaucoup à vous, Élodie Lemaire. L'œil sécuritaire, mythes et réalités de la vidéosurveillance, votre essai-enquête vient de paraître aux éditions La Découverte. Un grand merci aussi à toute l'équipe de La Grande Table, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, à Auriane Delacroix avec Henri Leblanc et Jean-Christophe Brianchon pour La Grande Table Culture, avec l'aide précieuse de Mathilde Tonfourcade et d'Antoine Suzarelli. À la réalisation aujourd'hui, c'était Marie Placet avec Jean-Frédéric Stré. Très bel après-midi à tous sur France Culture. Merci à vous.
Je vous remercie.